radar vient de détecter quelque chose.
Que voulez-vous dire?
Je veux en savoir davantage.
Qu'y a-t-il pour votre service?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Cinérama.
Je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Alors écoutez un peu.
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Je crois saisir.
Cinérama.
Je veux en savoir davantage.
Chronique, blind test, interview.
Alors c'est vrai. Tout est vrai.
Je vous envie horriblement.
Vous êtes formidable.
Vous devez être content de vous, j'imagine.
Moi, ça m'inspire.
Évidemment.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, votre émission hebdomadaire qui traite du cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 films et nous aurons une interview. L'interview, ce sera celle de Charline Bourgeois-Taquet qui présentait son film en compétition à Cannes, La vie d'une femme. Et on a pris d'ailleurs un extrait de la conférence de presse qu'elle a donnée là-bas. Alors toi Manu, aujourd'hui tu as 2 films.
Oui, dont une reprise, hein, c'est le Akira de Katsuhiro Otomo, et puis un film français de Grégory Morin qui s'appelle Flush.
Et puis toi Guillaume, un film qui nous emmène au cœur de la Seconde Guerre mondiale.
Je vais vous parler de Pressure de Anthony Maras sur la rocambolesque histoire du débarquement.
Quant à moi, je vous parlerai des survivants du Che, un documentaire qui nous emmène au moment de la mort du Che, mais pour parler de ses compagnons de lutte. Mais nous allons débuter cette émission de Cinérama avec une tête coincée dans des toilettes, des dealers et une nuit pour sauver sa famille. Flush offre un huis clos aussi improbable que déjanté, et c'est toi Manu qui nous en parle.
Cinérama.
Je vous demande pardon.
Chronique, blind test, interview.
Ça ne me surprend pas.
Oh, il y a quelqu'un. Oh, il y a quelqu'un.
Le huis clos n'est pas un genre à proprement dit, mais un dispositif qui permet à des réalisateurs de tirer leur épingle du jeu sans bénéficier de gros budgets. Alors pour le système D, finalement, c'est l'idéal. Hein. En revanche, un huis clos se déroulant uniquement dans les toilettes, on ne peut pas dire qu'on ait souvent vu ça, à l'exception d'un film assez récent qui s'appelait Holy Shit de Lucas Rinker. Alors Flush vient réparer ce trou béant de la création cinématographique pour le plus grand bonheur de certains et sans doute la désolation des autres. Le plus surprenant, après avoir écumé avec succès les festivals, reste sa sortie en salle, alors limitée certes, qui paraissait improbable quelques mois en arrière. Alors déjà bravo à son réalisateur, Grégory Morin, d'avoir porté à bout de bras ce projet iconoclaste et casse-gueule jusqu'au bout. Sur le papier, l'histoire d'un raté qui se retrouve la tête coincée à l'intérieur de chiottes turques, ça donne quand même très envie. Mais la question qui se pose est la suivante, est-ce que le concept tient sur la durée, même si le métrage ne dépasse pas les 70 minutes ? La réponse est plutôt mitigée, quoique positive dans l'ensemble. Déjà, le personnage ringard de Luc, interprété par l'excellent Jonathan Lambert, est immédiatement attachant. Il est présenté comme le roi de la loose, divorcé, cocaïnomane, père d'une fille qui ne lui adresse pas la parole. Il a aussi le chic de se vautrer dans les plans les plus foireux, ce que confirme la situation burlesque et cauchemardesque dans laquelle il se retrouve. Alors face à lui, les comédiens, malgré quelques dialogues bêtement vulgaires, parviennent à rendre crédible leur personnage, entre l'ex joué par une Élodie Navarre très drôle, et puis le patron de bar et son monsieur muscle, incarné respectivement par Elliot Jenico et Rémi Adrians. Alors ils sont parfaits tous les deux, même en sur-régime. En guest star, vous avez droit au sexe de l'incontournable Christophe Beer, venu faire une apparition d'anthologie. La petite troupe s'amuse et l'euphorie est communicative.
La taupe a disparu. Je trouvais ce mec en train de fouiller dans la planque.
Non, c'est n'importe quoi, mais j'ai rien volé.
Alors le film cumule les péripéties les plus loufoques, parvenant à renouveler constamment le dispositif. Alors entre l'effusion d'une chasse d'eau voisine ou le combat dantesque avec un rat, on saluera également la qualité des effets spéciaux de David Scherrer. Alors malgré toutes ces qualités, son dynamisme, sa drôlerie, sa sincérité, le film de Grégory Morin finit quand même par tourner en rond et surtout, au-delà de son côté potache, ne raconte pas grand-chose. Alors oui, prendre plaisir devant un film vomitif, nauséeux et trash, c'est toujours bon à prendre, mais on aurait aimé un peu plus de fond et pas seulement le fond de la cuvette.
Il a parlé de 110 grammes.
Quoi, t'as avalé 110 grammes? Mais putain, mais on peut pas te laisser comme ça.
Oh, qu'est-ce que tu fous?
J'y suis presque.
Alors malgré ces réserves, je conseille cette comédie claustrophobe et loufoque à tous les piliers de bar qui, en fin de soirée, se sont parfois demandé ce qu'ils foutaient dans certaines toilettes particulièrement crades. Alors un petit ovni à voir en salle avec, pourquoi pas, un petit sac à vomi, comme prévu d'ailleurs dans la plupart des festivals.
Ah bon?
Oui, Ils font ça parfois.
D'accord. Très étrange quand même. Donc, nous parlions de Flush de Grégory Morin. On change de sujet pour suivre une chirurgienne débordée qui voit son quotidien parfaitement réglé vaciller lorsqu'une romancière débarque dans son service. C'est La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Taquet. Et c'est Sophia qui nous en parle.
Cinérama.
Quoi ?
Chronique, blind test, interview.
Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ?
Après Les Amours d'Anaïs, révélés à la Semaine de la Critique à Cannes en 2021, Charline Bourgeois-Taquet revient avec un deuxième long-métrage d'un autre acabit, La vie d'une femme, présentée cette année en compétition officielle au Festival de Cannes. La cinéaste y met en scène Léa Drucker, tout juste césarisée pour Dossier 137 de Dominique Moll, accompagnée de la non moins prisée Mélanie Thierry. L'intention, dresser, dit la réalisatrice, le portrait d'une femme qui va bien. Une femme dans la cinquantaine qui a placé le travail au centre de son existence sans renoncer pour autant à sa vie familiale, amoureuse et sexuelle. Une façon de s'écarter des grandes figures féminines sacrifiées de la littérature classique, celles qui payent toujours d'une manière ou d'une autre le prix de leur liberté.
Merci de m'avoir invitée ici.
Mais toi, tu planes dans un monde parallèle où le chirurgien doit être un moine soldat qui sacrifie sa vie amoureuse, sa vie familiale.
Gabrielle Conti a 55 ans, elle est chirurgienne maxillofaciale, professeure et chef de service dans un hôpital public à bout de souffle. L'hôpital, pas Gabrielle. Elle opère, répare des visages abîmés, gère les plannings, les pénuries de moyens, avec son fidèle adjoint Camillard, incarné par Laurent Capelluto. Côté privé, elle jouit d'une relation pérenne avec son mari Henri, interprété par Charles Berling, avec qui elle vit, et doit aussi composer avec les enfants de celui-ci, qui tarde un peu à quitter le nid. Tandis que sa mère, Arlette, est doucement emportée par Alzheimer. Un jour, débarque dans sa vie Frida, une romancière incarnée par Mélanie Thierry, venue observer le service de Gabriel pour les besoins d'un livre. Frida regarde Gabriel, Gabriel se laisse regarder. Et dans son existence millimétrée, quelque chose commence peu à peu à vaciller. Le film est construit en 11 chapitres, chacun titré d'une parole ou d'une formule symbolique qui avance par bloc. Un peu comme Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, mais transposé ici à une autre génération, celle d'une quinca affirmée dont on ne fait pas le procès du désir. Cette construction fragmentée permet justement de recomposer Gabriel à travers ses différentes relations, avec son adjoint, son mari, sa mère, ses patients et patientes, puis avec Frida. Le cadrage signé du chef Noé Bach participe de ce portrait morcellaire. Son format resserré colle au personnage et évoque en creux le métier même de Gabrielle. Chirurgienne qui recompose des visages par fragments, et bien là, le chapitrage et la mise en scène assemblent aussi peu à peu les différentes facettes d'une femme qui semble d'abord ne jamais laisser paraître la moindre faille. Bon, certains chapitres titrés en surimpression flirtent un peu avec l'artifice, comme un dispositif parfois trop démonstratif où les séquences finissent par être mises en compétition les unes avec les autres. Mais quand la mise en scène lâche prise, elle atteint des sommets. La scène en montagne où Gabriel rejoint Frida loin de tout, avec les deux femmes, torse nu, filmées de dos au bord d'un lac, et cette eau qui se met à charrier tous les bleus, tous les verts, tous les mauves d'un tableau impressionniste, c'est là que le film respire, se libère du chapitrage et de l'hôpital pour ne devenir plus que sensation. Frida souligne d'ailleurs cette bascule en lançant à Gabriel « Arrête de travailler, ici on ne travaille pas ». L'hôpital, justement, c'est aussi un lieu de tension politique dans le film. On y voit bien le problème de sous-effectifs, les chantiers permanents, la pénurie de moyens, l'épuisement des soignants et soignantes. La réalisatrice y inscrit vraiment en creux la charge mentale d'une femme qui tient tout à bout de bras, au travail comme dans sa vie privée. Et Léa Drucker compose là un personnage charismatique, habité, profondément digne, bien que fissuré. Bon, on regrettera peut-être que malgré cette volonté de proposer une autre représentation de la femme de 50 ans, le film n'aille pas toujours jusqu'au bout de sa radicalité, mais le geste féministe reste sensible et payant, avec cette actrice magistrale dans ce rôle de cinquantenaire désirable et désirante.
C'est quand même désagréable d'avoir l'impression que tu passes ton temps à protéger tout le monde, mais que moi tu t'en fous, je peux crever.
T'as jamais eu besoin de personne. T'es une guerrière.
Mais qu'est-ce que tu crois ? Je suis pas Robocop !
La vie d'une femme, malgré son titre presque générique, refuse justement de raconter une vie de femme modèle, sacrificielle ou punie. Il raconte plutôt la vie d'une femme qui a fait ses choix pas d'enfant, une carrière, un désir qui déborde le cadre conjugal et les normes, et qui continue de tenir debout dans un hôpital public exsangue. Et puis, qui ne s'en excuse pas, surtout. Une femme qui, finalement, continue simplement à vivre.
Ce film était présenté lors du dernier festival de Cannes en compétition, ce qui veut dire eh bien, que Charline Bourgeois-Taquet, la réalisatrice, était présente évidemment au festival. Elle en a parlé lors d'une conférence de presse. Et ce qu'on vous propose dans Cinérama, eh bien, c'est d'écouter quelques petits extraits de cette conférence de presse qui va nous permettre eh bien, de nous éclairer sur son film.
Allô ? Oui, bonjour. Professeur Conti en chirurgie maxillofaciale.
Je dirais que le titre s'est imposé à moi de manière assez évidente. Je trouvais que ça correspondait bien au film que j'étais en train d'écrire, qui est ce portrait d'une femme que l'on regarde vivre pendant une année. C'est cette femme dans différentes sphères de sa vie. Et voilà, c'est ce titre.
On a une réunion avec la direction, ils veulent vous sucrer deux infirmières.
Je trouve ça normal que je passe mon temps à me retrancher dans cette chambre pour échapper à la vie sociale de Simon et Roxane.
Jamais supporté mes enfants.
Mais quelle mauvaise foi. Une seconde. Oui ?
Je dois dire que le plus important pour moi, c'était d'écrire un personnage de femme qui se serait pas construite et déployée et accomplie uniquement dans l'amour et dans la maternité, mais qui aurait choisi de mettre le travail au centre de sa vie, un travail qui est aussi une passion. Et donc je voulais voilà, qu'elle se démultiplie dans son travail, qu'on la voit comme ça prendre les choses à bras-le-corps, mais sans pour autant renoncer à sa vie amoureuse, à sa vie érotique, à sa sensualité, à l'âge qu'elle a, c'est-à-dire environ 55 ans. C'était vraiment ça qui me faisait envie et je dois dire même dont j'avais besoin. J'avais besoin de ce personnage. Parce que j'ai autour de moi pas mal d'amis plus âgés, notamment des femmes donc de, je sais pas, entre 50 et 65, 70 ans. Et il y en a plusieurs parmi celles que je trouve les plus heureuses qui n'ont pas d'enfants. Et je trouvais que ça valait le coup de s'intéresser à ce genre de profil parce qu'au cinéma, c'est très rare qu'on voit des femmes épanouies qui n'ont pas d'enfants. C'est très rare. Une femme, ça a des enfants.
Ok, allez, on avance, quoi d'autre ?
Vous avez décidé de devenir la tutrice de votre mère.
Mmh.
Vous savez que ça représente une lourde charge.
Je sais, oui.
J'avais une première version de scénario dans laquelle le personnage était prof de lettres et elle dirigeait un service à la fac. Il y a énormément de scènes qui sont restées, qui n'ont pas du tout bougé entre la première version et le film actuel. Donc le personnage, je l'ai vraiment construit en l'imaginant, quoi. Ça vient vraiment de moi. Mais ensuite, quand j'ai décidé que j'avais envie qu'elle soit chirurgienne, j'ai eu envie de faire un stage donc, dans un hôpital pour suivre une vraie chirurgienne parce que j'y connaissais rien et que je voulais absolument nourrir les scènes de travail, disons, pour qu'elles aient une certaine profondeur et une certaine véracité. Et donc, j'ai atterri dans ce service de chirurgie maxillofaciale à la Pitié-Salpêtrière où j'ai dû passer... sur 3 mois, j'ai dû y aller peut-être une quinzaine de jours. Et j'ai assisté vraiment à tout ce qui constitue le quotidien de cette femme chirurgienne et chef de service. Donc les réunions le matin à 7h30, le staff, les opérations bien sûr qui durent des heures, les consultations, les visites aux patients, ça je ne l'ai pas mis dans le film parce que c'est très traumatisant. Et puis tout ce qu'elle a à gérer en tant que chef de service, c'est des choses très très triviales, très concrètes, enfin voilà. Donc c'est ça que j'ai importé dans le scénario, plus que... la femme que j'avais sous les yeux, même si je l'ai choisie, j'ai fait un petit casting avant de la choisir elle, je l'ai choisie parce que j'ai reconnu en elle des qualités qui m'intéressaient, qui correspondaient à l'héroïne que j'avais en tête et qui correspondaient aussi à des choses de ma personnalité, parce que bien sûr, on met toujours beaucoup de soi dans les personnages qu'on écrit. Et pour les autres personnages, non, c'est toujours des emprunts à des personnes, soit de mon entourage, soit même... ça vient d'histoires qu'on m'a racontées pour le personnage de Marie-Christine. C'est les mères d'amis de ma mère. Voilà, c'est des bribes d'histoires comme ça qui finissent par atterrir dans le scénario.
Nous écoutions Charline Bourgeois-Taquet. La vie d'une femme est en salle depuis le 9 septembre. Après la mort du Che Guevara, 3 de ses compagnons s'engagent dans une fuite de 2400 km à travers la Bolivie, traqués par l'armée. Nous parlons des survivants du Che.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
Vraiment ?
C'est l'histoire de ceux qui font les révolutions, mais dont les noms n'apparaissent jamais. 1967, le Che est capturé et exécuté en Bolivie.
il y a des histoires qui côtoient la grande histoire et qu'on ne connaît pas. Alors on peut être bien content de les retrouver mises en forme par le cinéma, que ce soit sous forme de fiction ou de documentaire. Avec les survivants du Tché, Christophe Réveille nous convie à suivre le récit d'une aventure extraordinaire qui s'est déroulée à la suite d'un grand événement historique, la mort de Che Guevara. Le célèbre guérillero argentin est tombé en Bolivie en octobre 1967 alors qu'il menait avec d'autres une lutte contre le pouvoir militaire en place. Partisan d'une révolution internationale, il avait aidé à l'installation de Fidel Castro à Cuba et donc il poursuivait son combat, cette fois pour renverser le régime bolivien. Mais alors, sans aide, il n'était pas davantage suivi par les paysans dont il cherchait le soutien que par le parti communiste du pays. Alors, ce qui explique sûrement que cette année-là, il soit blessé puis capturé. Et le lendemain, n'étant visiblement pas un grand adepte de la justice et ayant séché les cours de philo au lycée, le président bolivien décide de le faire tuer froidement. Ce jour-là, le guérillero n'était pas seul. Il était avec 6 compagnons d'armes. C'est leur histoire, ces événements que le réalisateur français raconte.
Hoy que quedamos 6 hombres, ¿quién nos va a dar ayuda?
Lo primero que dijimos es que teníamos que continuar la lucha.
Continuar la lucha hasta que quedara el último hombre.
Christophe Réveille a mis longtemps à concevoir son documentaire. Il lui a fallu rassembler de nombreux récits. Alors, il y a d'abord celui des compagnons de Guevara, et effectivement, du moins ceux qui étaient encore vivants. Mais il y a aussi un membre de la CIA, puisque l'agence américaine a apporté son soutien à l'armée bolivienne, ainsi que des soldats qui ont participé au combat. Alors, il s'ensuit un récit captivant. Ces 6 compagnons de révolution, 3 Boliviens et 3 Cubains, n'ont pas été capturés, mais ils ne sont pas pour autant sauvés. D'abord abattus par la perte de leur leader, dont ils apprennent la mort à la radio, ils doivent penser à sauver leur vie et à rapporter tout ce qui s'est passé à Cuba auprès de Fidel Castro.
Allí había más de 300 soldados.
Le gouvernement offre 10 millions pour une simple information les concernant.
Se estaba comentando que nosotros estábamos en Cochabamba.
Ahí nos iban a encontrar.
La fuite en Bolivie a tout d'une solide histoire de film d'aventure. Il y a 6 hommes parfois opposés à des centaines de soldats, mais qui parviennent toujours, à quelques exceptions près quand même, à échapper à leurs poursuivants. Pour nous plonger dans cette fuite, il y a évidemment les récits de ceux qui y ont participé, en premier lieu les guérilleros, mais il y a aussi le dessin. Certains témoignages sont mis en image par le trait, ce qui permet de mieux faire sentir la dureté des combats et les situations auxquelles étaient confrontés les combattants de la Révolution. Le réalisateur livre aussi quelques images du pays, qu'il s'agisse des montagnes boisées et escarpées dans lesquelles il est facile de tomber dans un guet-apens, ou encore des paysages de l'altiplano que vont traverser les guérilleros quand ils ne seront plus que 3, les Cubains, aidés par 2 Boliviens pour rejoindre le Chili où se trouve Salvador Allende. Cette volonté de ne pas tout sacrifier au récit oral est vraiment salutaire.
L'improbable est toujours possible. On a parfois envie de baisser les bras et puis on s'accroche.
Il marche dans l'espoir de rejoindre un jour Cuba, de raconter à Fidel, de relancer la guérilla.
Dijimos, hoy cruzamos la frontera o nunca.
On ne saura que peu de choses sur l'idéal de chacun de ces combattants révolutionnaires, sinon leur idéal de justice. Alors, ce n'est pas le sujet du film. Et pour nous aider à mieux comprendre cette époque marquée par les tensions entre l'URSS et les États-Unis, le réalisateur de Les Survivants du Che a également demandé à Régis Debray de témoigner. Le philosophe français qui a aidé Che Guevara avait lui aussi une mission en Bolivie, mais qui ne passait pas par la lutte armée, ce qui ne l'empêchera pas d'être emprisonné quelques temps. Alors, ses propos sont très éclairants et témoignent d'une époque que l'on ne connaîtra vraisemblablement plus. Ce récit captivant oscille entre moments de bravoure, courage, fuite désespérée et moments drôles. On reste surpris d'apprendre que les fuyards n'ont pas hésité à retourner dans un village tenu par leurs ennemis pour récupérer un chien adopté quelques jours plus tôt. Alors, outre les paroles des survivants, la voix off est donnée à Vincent Lindon qui permet de lier tous les événements ainsi que le contexte de cette grande évasion qui va finalement bien se terminer grâce au général de Gaulle, le seul à accepter de dépêcher un avion pour emmener les combattants du Chili à Cuba. Les survivants du Che est un documentaire remarquable qui permet de faire revivre une histoire méconnue et de témoigner de, d'une époque. Ce film documentaire est en salle depuis le 9 septembre. De la lutte armée, nous passons à la guerre avec un météorologue face aux plus hauts gradés alliés. Pressure revient sur les heures décisives qui ont précédé le débarquement.
La météo peut nous anéantir.
J'aime bien les découvertes comme Preacher. Alors en 2026, on a vu pléthore de films de guerre sur la Seconde Guerre mondiale, et on pensait franchement en avoir fait le tour. Alors, je ne cache pas que j'ai même pas envie de les lister, tout comme ceux sur le sujet qui nous intéresse, à savoir le débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Le nouveau film d'Anthony Maras choisit un point de vue beaucoup plus inattendu, raconter le débarquement à travers la météo. Alors, dit comme ça, c'est pas la proposition la plus attendue, ni spectaculaire qui soit, et pourtant, c'est précisément tout l'intérêt de la chose, puisqu'il nous rappelle que l'une des plus gigantesques opérations militaires de l'histoire a dépendu d'une question terriblement simple. Quel temps va-t-il faire ?
Colonel James Stagg, je viens prendre mon poste.
Le général Eisenhower va vous recevoir.
Le jour J verra la plus grande force d'invasion navale de tous les temps.
Alors nous sommes quelques jours avant le jour J, les dirigeants alliés préparent l'opération Overlord et tout semble avoir été anticipé. Les bateaux, les avions, les marées, les mouvements des troupes et les opérations de diversion destinées à tromper les Allemands. La pression est d'autant plus forte qu'une répétition générale du débarquement, l'exercice Tiger, a déjà tourné au désastre en provoquant la mort de plusieurs centaines d'hommes. Cette fois, l'erreur n'est donc plus permise. Mais au milieu de cette écrasante machine militaire subsiste une donnée impossible à maîtriser, la météo. C'est là qu'intervient James Stagg, météorologue écossais, qui, du haut de son année 1944, n'a ni satellite météorologique, ni supercalculateur permettant d'établir les prévisions auxquelles nous sommes aujourd'hui habitués. Alors prévoir précisément le temps plusieurs jours à l'avance est extrêmement difficile, or les conditions météorologiques sont absolument déterminantes pour l'opération. Une mer trop agitée empêcherait les bateaux d'approcher correctement des côtes, tandis qu'une couverture nuageuse trop importante compromettrait l'intervention de l'aviation. Reporter le débarquement n'est pas beaucoup plus simple, puisqu'il faudrait alors attendre plusieurs semaines pour retrouver des conditions favorables, avec le risque de voir le secret de l'opération éventé.
Churchill me dit que vous êtes le meilleur météorologue du pays, et il me faut des prévisions.
Y a-t-il une date de fixée ?
On débarque en France lundi 5 juin. Vous avez 61 heures. De ce jour dépend le sort de la guerre et la vie de milliers de soldats.
L'un des bons points de Preacher, c'est sa structure, puisque, comme avec Titanic par exemple, on connaît la fin. La question n'est donc pas de savoir si les Alliés vont débarquer en Normandie, mais de comprendre comment des hommes ont pu prendre une décision aussi vertigineuse alors qu'ils ne disposaient pas de toutes les informations nécessaires. Le problème de Stagg est qu'il refuse surtout de donner à Eisenhower la certitude que ce dernier a besoin. Il pense que la tempête va arriver, mais la science dont il dispose ne lui permet pas de l'affirmer avec une absolue assurance. Eisenhower doit donc décider du sort de milliers d'hommes en fonction d'une prévision qui demeure une hypothèse malgré toute la compétence de celui qui la formule. La situation devient même carrément absurde dans la communication, puisque au moment où Stagg annonce l'arrivée du mauvais temps, convaincu qu'il est, les conditions semblent excellentes et idéales. C'est ici que le titre du film Preacher prend tout son sens. Il désigne naturellement la pression psychologique qui s'exerce sur ces hommes, mais également, de manière beaucoup plus littérale, la pression atmosphérique qu'observent les météorologues pour essayer de prévoir ce qui va se produire.
Donnez-moi les données venant de toutes les stations météo. Tout ce qui est relevé, je veux qu'on me le donne. Il y a deux tempêtes de grande ampleur qui progressent en direction des côtes normandes.
En êtes-vous sûr et certain ?
Je suis convaincu que les tempêtes vont arriver.
Réponse insuffisante. Si nous retardons le débarquement, nous perdrons cette guerre à coup sûr.
Si vous débarquez demain, vos troupes seront englouties par les flots.
On ne sera pas surpris d'apprendre que, même s'il s'en détache esthétiquement, le film est adapté d'une pièce de théâtre un peu comme Diplomatie de Volker Schondorf. Il repose beaucoup sur des hommes enfermés dans des pièces, étudiant Descartes, confrontant des rapports et défendant leurs analyses. Le spectacle ne vient donc pas seulement de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la tension intellectuelle qui règne à l'intérieur de ces salles où quelques hommes tentent de prendre une décision qui peut littéralement modifier le cours de l'histoire. Andrew Scott est très convaincant dans le rôle de James Stagg, précisément parce qu'il essaie jamais d'en faire un héros spectaculaire. Son Stagg à lui est réservé, méthodique, parfois obstiné, mais son courage véritable consiste à continuer de défendre ce qu'il estime être vrai, alors que tous ceux qui l'entourent préféraient entendre une autre réponse. Face à lui, le toujours brillant Brendan Fraser compose un Eisenhower plus imposant, mais dont l'autorité laisse progressivement apparaître le poids terrible de la responsabilité. C'est probablement l'un des aspects les plus intéressants du film. Eisenhower peut réunir les meilleurs spécialistes, confronter leur analyse et leur demander encore et encore s'ils sont certains de leurs conclusions, mais personne ne pourra prendre la décision à sa place. Et c'est ça, hein, la véritable force de Prêcheur, un solide divertissement tendu, hein, c'est de rappeler qu'une fois les événements passés, tout paraît logique, presque inévitable, mais pour ceux qui ont vécu ces événements, rien n'était encore écrit, à l'image d'une météo insaisissable.
Prêcheur est en salle depuis le 9 septembre. Néo-Tokyo, des pouvoirs incontrôlables et une menace tapis dans l'ombre, Akira revient en salle dans une nouvelle restauration en 4K et avec une version IMAX. Et c'est toi Manu qui nous en parle.
Cinérama.
C'est exact.
Chronique, blind test, interview.
Ah, c'est vraiment surprenant.
Akira,
je ne suis pas Akira.
Petite révolution dans l'animation, en 1991, Akira, réalisé en 88, sort sur les écrans français et s'impose d'emblée comme l'un des tout premiers mangas, hein, sinon peut-être le premier mais à vérifier, à sortir en salle dans l'Hexagone. Katsuhiro Otomo adapte son propre travail pour les écrans alors qu'il n'a pas terminé d'ailleurs son manga fleuve en bouquin, hein, qui sort en France dans les années 90 en plusieurs volumes, grand format cartonné, 14 volumes d'ailleurs. Hein. Il s'agit surtout de l'un des plus gros budgets de l'histoire de l'animation japonaise, hein, 700 millions de yens pour la production, soit environ 5,5 millions de dollars à l'époque, ce qui paraît peu aujourd'hui, hein, mais qui restait colossal en son temps. Alors le budget total, hein, production et promotion comprise, atteint environ plus de 7 millions de dollars en fait. Hein. Donc il faut signaler aussi que grâce à cette super production, la France va s'ouvrir progressivement vers cette forme de dessin animé. Hein. Alors Hayao Miyazaki, Isao Takahata ou encore Satoshi Kon vont définitivement asseoir la supériorité de l'animation japonaise sur le reste du monde. Mais au début des années 90, n'était pas gagné. Le film démarque comme un véritable ovni, un film d'animation japonais de plus de 2 heures, ultra violent, futuriste, inspiré par le cyberpunk, le cinéma de Kubrick et Blade Runner. La réception critique d'Akira est encore un peu timide, même si elle loue les qualités plastiques de l'ensemble et l'écriture complexe.
Pensez à un traître parmi eux au conseil d'administration.
Nous avons des preuves, monsieur.
Oh, ben non, c'est pas là le problème. Cette situation demande du tact, quelque chose que vous avez du mal à comprendre.
On n'enseigne pas le tact à l'école de la police.
Le récit se situe en 2019, hein, à Néo-Tokyo, hein, une mégalopole reconstruite après une catastrophe nucléaire. Kaneda et sa bande de jeunes motards passent leur nuit à semer le chaos sur des autoroutes gigantesques. Jusqu'au jour où Tetsuo, le souffre-douleur du groupe, entre en contact avec un étrange enfant au pouvoir psychique. Alors 38 ans après sa réalisation, Akira demeure encore une leçon d'animation d'une fluidité sidérante. Alors tout a été réalisé à l'ancienne, sans recours aux effets numériques. Hein. Les expressions du visage, les décors titanesques, les détails sur les vêtements, les effets de lumière, le souci du détail graphique participent à la réussite exemplaire de ce feu d'artifice plastique qui n'a rien perdu de sa beauté, pour peu qu'on aime le genre. Le dynamisme très cinématographique de la mise en scène, multipliant les axes insolites des cadrages et puis un sens du découpage parfait, brise alors la frontière un peu poreuse entre dessin animé et cinéma live.
J'étais inquiet pour toi. J'aurais préféré que vous vous tiriez, que vous me laissiez tranquille. Hein ? Vous me prenez tous pour un raté. J'aurais très bien pu m'en tirer tout seul. Mais un jour viendra où je vous montrerai ce que je sais faire. N'oubliez pas ce que je vous dis.
Sur le fond, hein, le film s'avère complexe, abordant des thématiques classiques de la SF, poussant la critique sociale et politique assez loin. La dystopie d'Otomo décrit des jeunes gens en rébellion contre l'autorité, avec en toile de fond le traumatisme de la bombe H. Le cinéaste, hein, qui se décrit lui-même comme anti-système, éreinte frontalement l'armée, le pouvoir, la science. Nihiliste et virtuose, Akira a pour défaut principal d'être un peu confus, condensé en 2 heures un manga fleuve, non terminé de surcroît, et quasi impossible.
À minuit, vous abandonnerez votre rang et votre commandement de l'armée de la métropole. Vous vous rendrez à notre garde.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Nous attendons, colonel.
Est-ce que vous croyez vraiment que je vais livrer Néo-Tokyo à ces imbéciles ?
Personnellement, alors moi je préfère les BD, hein, qui prennent leur temps d'expliquer, de développer les relations entre les personnages, de donner une cohérence aux multiples récits. Là, Otomo vous jette tout à la figure et à vous de recoller les morceaux, d'où cette sensation d'assister à un spectacle cryptique. Alors, tout le dernier tiers d'ailleurs n'a rien à voir avec le matériau d'origine, hein, festival de son et lumière, d'une audace et d'une violence rares dans ce type de production. Alors, malgré cette réserve, hein, Akira est une expérience de cinéma unique qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie, alors d'autant qu'il ressort dans une copie splendide restaurée.
Eh bien, ce film, ce retour d'Akira sur les écrans et parfois en IMAX est visible dans les salles depuis le 9 septembre.
Bon, je crois qu'on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire.
Qu'est-ce qui se passe ?
Au revoir.
Qu'est-ce que vous avez dit ?
Je crois qu'il est grand temps de s'en aller.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Nous n'allons pas revenir là-dessus.
Non, écoutez...
Maintenant, je vais vous demander de vous en aller.
Parfait.
Ainsi s'achève Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec des films. Tu en auras un, toi, Manu ?
Oui, c'est le retour en salle d'un nouveau film de Takashi Miike, Sham.
Et puis toi, Guillaume, tu auras aussi un film.
Moi, je vais vous parler de L'Invitation, le nouveau film d'Olivia Wilde.
Quant à moi, je vous parlerai de Ma famille de samouraï, un dessin animé. Et puis, Sophia nous parlera de Histoire de la nuit. Et puis, il y aura probablement un blind test. À la semaine prochaine.
This is Cinérama.